Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Père Jean-Michel Tour, bonjour.
Bonjour Nathalie.
C'est un troisième volet d'entretien avec vous cette semaine dans Des clés pour vivre. J'ai de grands projets pour toi. C'était le titre de votre livre témoignage. Des grands projets, le Seigneur en avait pour vous en tant que prédicateur et missionnaire. Ordonné en 2003, il y a 15 ans, vous avez lancé dans ce diocèse de Fréjus-Toulon les assemblées du réveil. Alors expliquez-nous des assemblées. Du réveil. Le réveil de quoi? Oui, parce que, voilà, on se réveille de quoi?
Ouais. Mais c'est une bonne question. Je me suis fait beaucoup chambrer sur ce titre-là. Et pourtant, c'est un titre qui s'est imposé à moi quand j'ai lancé ce truc-là. C'est le réveil, c'est un terme biblique. Hein.
Ah, vous y revenez.
Le réveil, c'est le réveil de l'âme. C'est le réveil de... En fait, c'est très lié à ce réveil de l'âme qui est saisi par le Saint-Esprit. Qui amène dans la dimension prophétique de l'Église, comme vous avez les prophètes dans l'Ancien Testament, ils ont le Saint-Esprit qui les saisit. Et on voit à la Pentecôte, les apôtres, quand ils sont saisis par l'Esprit-Saint, par ces langues de feu, ils deviennent... c'est le début du ministère évangélique, c'est-à-dire qu'ils vont prêcher l'Évangile à partir de ce moment-là. Ils parlent en d'autres langues, il y a l'émergence des charismes, mais ça les réveille, vous voyez. Et j'estime, moi je pense que le titre est un peu choquant, les gens m'ont dit ça fait un peu ésotérico, bizarre, le réveil.
Non, vous êtes loin de tout ce qui...
Alors, des fois, il y a des gens qui se trompent, ils disent les assemblées d'éveil. Je dis d'éveil. Non, pas d'éveil, on n'est pas dans l'éveil. Ouais, non, mais l'éveil, non. C'est un mot qui est très pris dans le New Age. L'éveil des consciences, l'éveil de l'esprit, etc. On n'est pas du tout dans ce sens-là. On est dans le sens d'un réveil. Parfois, vous savez, l'âme, elle peut s'endormir. Elle peut s'apaiser, elle peut être sous la charge des soucis, sous le fardeau, sous l'angoisse, sous la maladie, sous plein de choses. Et on sent qu'on n'est pas dans cette énergie ou on n'est pas dans cette vigueur que l'Esprit-Saint donne. Et ces assemblées du réveil, en fait, c'est un rassemblement où les gens viennent quand ils en ont besoin.
Alors expliquez-nous peu plus,
oui.
Qu'est-ce qui s'y passe très concrètement?
Très concrètement, la base pour nous, c'est la louange. Donc on a un bon temps de louange le matin, c'est une journée entière. Hein, donc il y a un temps de louange le matin, suivi de deux interventions, où on a un orateur qui prêche.
Donc temps de prédication dans
ouais,
la journée,
prédication,
oui. Donc louange
et
prédication, oui.
Qui n'est pas un enseignement théorique, mais qui est très axé sur une vie chrétienne pratique pour immédiatement applicable. Pour sortir de schémas qui nous enferment. En fait,
vous pensez à quoi, schémas qui nous enferment?
Ça peut être des schémas affectifs, des schémas psychologiques, des schémas qui en fait nous centrent sur nous tout le temps au lieu de regarder Dieu. Voyez. Et pour moi, c'est le schéma le plus enfermant, c'est ça. C'est toujours et parfois même dans les rassemblements charismatiques, on est quand même centré sur soi, sur sa guérison, parce qu'on sent cette maladie ou on sent cette blessure et on est toujours en train. Alors que Dieu, d'abord, la première chose, c'est qu'on vient le louer. Je dis, le premier sens de l'assemblée du réveil, c'est de louer Dieu.
Alors, au fond, ce n'est pas devenir comme des enfants consommés pour devenir la guérison. C'est peut-être un peu, permettez-moi, Père Jean-Michel Tour, un peu ce côté consommateur que l'on peut ressentir de l'extérieur quand on entend parler du renouveau charismatique. Mmh. Ce renouveau est beau, il existe dans l'Église et il fait partie aussi de cette beauté de l'Église dans sa diversité.
Et le pape François même a remis un point là-dessus, hein, avec la formation de Charis, justement, comme organe de gouvernement du renouveau charismatique mondial, pour bien dire que c'est extrêmement important. Ce n'est pas en périphérie de l'Église, mais c'est vraiment quelque chose de...
Alors, permettez-moi de rebondir, mais les charismes, ce n'est pas ceux qui font la sainteté.
Ah non, ça n'a rien à voir. Les charismes, c'est des outils pour la mission.
Parce qu'on court aujourd'hui auprès des charismes, des prédicateurs, on court pour recevoir la guérison.
Il y a les charismes personnels. Mais vous savez, non, c'est simplement que, vous savez, si dans toutes les paroisses on priait pour la guérison, eh ben les gens iraient dans toutes les paroisses pour demander la guérison. C'est simplement que l'Église a parfois, pas l'Église de manière générale, mais de manière particulière, on a oublié le mandat de l'Église qui est proclamer que le royaume de Dieu est là, guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. C'est Jésus qui dit ça aux apôtres. Hein.
Donc vous appliquez ce que Jésus dit aux apôtres dans la Bible.
Mais on ne prêche pas la guérison, on prêche d'abord le royaume de Dieu. C'est-à-dire cette réalité que nous sommes ressuscités dans le Christ et que nous vivons dans cette réalité spirituelle, même si on est incarné. Hein.
C'est la question du salut.
C'est la question du salut et de la vie en Christ, par l'Esprit Saint. La vie de Fils de Dieu, par l'Esprit Saint.
Alors,
il y a les deux aspects.
Qu'est-ce qui s'y vit dans ces assemblées de réveil? Des guérisons miraculeuses? Alors, des guérisons du cœur, des guérisons de l'âme, des guérisons physiques?
Moi, ce que je vois, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a essentiellement... Après, il y a ce que Dieu veut faire. D'accord.
Ça, c'est une autre histoire. Vous n'êtes pas un gourou.
Pas du tout. Hein? Donc, on ne peut pas maîtriser ce qui va se passer. Mais ce que je vois, c'est la joie entre la joie qui est à la fin par rapport au début. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une libération des cœurs. Il y a vraiment une exultation, il y a un amour entre les gens de différentes dénominations.
C'est un des signes.
C'est un des signes pour moi.
Paix et joie.
Paix et joie, oui. Le royaume de Dieu est justice, paix et joie dans l'Esprit.
Permettez-moi, vous n'êtes pas un guérisseur, prêtre guérisseur, non. Dans ces rassemblements du réveil.
Non, je prie pour la guérison et j'exerce mon ministère de guérison au nom de Jésus dans la puissance de l'Esprit Saint, mais je ne suis pas un guérisseur, sinon je ferais de l'occulte. J'ai aucun don naturel. Vous savez, vous pouvez discerner, je m'adresse aux auditeurs, si la personne est dans le charisme ou dans le don naturel ou préternaturel. Elle va dire qu'elle a reçu un don. La plupart du temps, ce don, il est transmis de génération en génération. Et même si elle a des saintes vierges ou des machins dans son cabinet, vous êtes sûr que ce ne sera pas le Saint-Esprit et que ce ne sera pas un charisme. Donc n'allez pas là parce que vous allez forcément avoir une entité occulte derrière et vous aurez un lien d'âme.
C'est un sujet important pour
vous. C'est un sujet important.
On y reviendra peut-être. Ouais. Ça fait partie aussi de votre prédication.
C'est un peu un combat.
C'est un combat.
Ouais, parce qu'il y a trop de mensonges à ce sujet. Et il y a trop peu de paroles objectives là-dessus, je trouve, dans l'Église. Et du coup, les gens, n'étant pas avertis, s'engouffrent un peu dans tous ces trucs-là. De l'esprit qui n'est pas spirituel, pour le coup. Enfin, qui est spirituel, mais dans le mauvais sens du terme.
On parle de guérison, on parle de prière, de louange, de prédication dans ces assemblées du réveil que vous avez donc démarré il y a près de 15 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qui différencie ces prières, en fait, de guérison, où des miracles s'opèrent, avec ce que l'Église catholique donne avec tous ces sacrements, et notamment le sacrement des malades?
Qui est fait aussi pour la guérison. Qui est un vrai sacrement de guérison. Et moi, j'ai vu des malades à l'article de la mort, d'une vieille dame, je me rappelle, qui devait mourir. Et sa fille était triste, bien sûr, mais elle était encore plus énervée quand, après le sacrement des malades, la mémé, elle est repartie pour 3 ans. Alors que finalement, ça faisait... ça aurait fait moins de frais pour la maison de retraite et tout ça, mais elle avait voulu recevoir le sacrement des malades, et le sacrement des malades l'a guérie, alors que les médecins disaient qu'elle avait 93 ans, quoi.
Alors, quel lien entre...
Donc c'est un vrai sacrement.
Ce sacrement des malades et ces assemblées du réveil. Alors, pour qu'on comprenne bien un petit peu autour de cette guérison, soyez très précis pour les auditeurs qui ne connaissent pas aussi ce renouveau charismatique.
Déjà, à la base, il faut savoir que dans la Bible, Dieu se définit comme Dieu. Je suis celui qui te guérit. Donc Dieu, il s'est toujours présenté comme celui qui nous guérit. Yeshua, ça veut dire Dieu sauve, Dieu guérit. Donc Jésus lui-même porte le ministère de Dieu qui veut sauver et qui veut guérir notre âme, mais aussi nos et on aura bientôt Isaïe 53, il s'est chargé de nos péchés et dans ses meurtrissures, nous avons la guérison. Donc on voit bien que ça s'inscrit là. Après, il y a les sacrements dans l'Église qui sont le canal ordinaire, on dit, de la grâce, et donc il y a un sacrement spécial pour la guérison, qui donne vraiment la guérison, il faut le croire, hein, et le demander au prêtre. Et puis, mais ça ne dispense pas aussi l'outil charismatique que l'Esprit-Saint donne à l'Église, qui est d'opérer des miracles en son nom, très simplement,
au fond,
comme faisait...
C'est l'œuvre de l'Esprit-Saint.
Que ce soit dans le sacrement ou dans la prière d'intercession, c'est l'œuvre de l'Esprit-Saint. C'est la puissance de l'Esprit-Saint, c'est l'œuvre du Père par Jésus, plutôt.
C'est pas l'œuvre et la guérison des hommes.
Non, l'homme, l'intermédiaire, n'est qu'un intermédiaire.
Et n'est qu'un serviteur.
Il peut lui donner une onction particulière, un charisme particulier. Il y en a qui ont des charismes plus de prophétie, d'autres plus de guérison. Mais en aucun cas, c'est lui qui va faire. Lui, il va prier. Il va juste avoir la foi. Dieu va lui donner une foi un peu plus audacieuse pour amener la guérison. Mais c'est pas lui qui fait. C'est
donc
toujours Dieu.
Une foi audacieuse, c'est une prise de risque aujourd'hui.
Un peu, c'est ça. C'est pas facile quand vous avez quelqu'un en fauteuil roulant de dire lève-toi et marche.
Vous l'avez déjà fait, bon, entre nous.
Je l'ai fait, ça n'a pas marché.
Comment vous l'avez vécu? Déception, échec pour vous?
Avec une petite pointe verdure en disant « Oh, tu m'expliques ?» Mais je pense
que c'est... Vous avez eu la réponse ?
Non, mais je pense que c'est... Dans tous les ministères de guérison, on voit qu'il y a une espèce de pédagogie où Dieu nous demande de prier pour la guérison et il n'exauce pas pendant un moment et tout d'un coup, il va exaucer.
Ou alors il opère une autre guérison.
Oui, il opère une autre guérison. Ce qui est sûr, c'est que tous les malades ne sont pas guéris. Donc, on ne peut pas... Voilà, du temps de Jésus, tous les malades étaient guéris. Nous, par le ministère de l'Église, tous les malades ne sont pas guéris. Mais du coup, ce n'est pas pour autant qu'il faut oublier de prier pour les malades.
Ça, c'est un point que vous n'oubliez pas, apparemment.
Non, ouais, non. Parce que ça reste un signe du royaume.
C'est un signe aussi important dans votre ministère vocationnel et ce sacerdoce que vous vivez.
Mais la première guérison, c'est ce cœur qui est réveillé et qui découvre la joie du royaume.
Et qui fait cette rencontre.
Oui, qui fait cette rencontre avec Dieu.
Et ce cœur s'épanouit dans la joie et la paix.
C'est ça.
Ouais,
c'est ça.
L'un des
c'est ça la résurrection de l'âme.
Père Tours, à demain.
À demain.
La même heure.